France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Des interprètes qui, soudain, se mettent à danser ou à chanter pour faire progresser l'histoire. Mais oui, vous y êtes. La comédie musicale, vous savez, ce genre typiquement américain, inspiré par l'opérette européenne et le jazz, et qui dépasse aujourd'hui, en popularité à Broadway, les pièces de théâtre entièrement parlées. Qui n'a jamais, par exemple, fredonné Maria ou I Feel Pretty, The West Side Story, 1957, Leonard Bernstein, qui rêvait au départ de créer un opéra américain, choisissant même une distribution uniquement composée de chanteurs lyriques pour l'enregistrement du disque qu'il dirigea. Alors vous êtes plutôt opérette, opéra ou comédie musicale? Nos invités répondraient certainement tra-la-la. Bonjour Jean-Marie et Arnoux Larrieux.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux sur France Musique, les frères Larrieux, réalisateurs. Vous avez choisi ici cette danse numéro 1, extrait de La vie brève de Manuel de Falla, un opéra andalou créé en 1905 pour démarrer. Dites-nous tout.
Oh, c'est une petite pièce, disons, qu'on a utilisée en version orchestrale, d'ailleurs, dans Les Derniers Jours du Monde, justement dans une scène d'opéra, dans laquelle Sergi Lopez joue un ténor, et il y a Mathieu Amalric et Catherine Fro dans la salle. Et alors, comme c'est un film d'apocalypse, donc il ne joue que le premier acte, et en réalité, nous, dans le film, il n'y a que ce morceau-là. Et c'est un morceau pendant lequel Catherine Fro va se suicider. Et c'est ce qu'on aimait beaucoup, c'est-à-dire ce côté espagnolade, bucolique, même si à un moment donné... Vraiment, le thème atteint son apogée. Il y a vraiment un moment de bonheur assez précis, très bref, évidemment. Et c'est le moment où Catherine Fro se tranche la gorge.
Terrible.
Après avoir dit mais pourquoi les hommes prennent-ils tant de plaisir à me quitter ?
Finalement.
Et ce morceau, du coup, est resté beaucoup dans nos têtes. Et chaque fois qu'on l'entend, il y a ce mélange, alors qui est très espagnol, évidemment, à la fois idyllique, courtois, et puis avec des... un couperet tragique qui tombe de temps en temps comme ça.
Et effectivement, allez-y, Jean-Marie Larrieux.
Oui, puis un côté musique populaire. C'est la musique populaire qui rentre aussi dans ce qu'on appelle la musique classique. Et le titre, l'ironie, l'air de rien souvent, le rapport à la musique classique, c'est les titres. Donc évidemment, dans un film qui s'appelait Les Derniers Jours du Monde, que l'opéra ce soit une mise en scène de la vie brève, bon, il y avait une sorte d'ironie, puis le morceau, la vie brève, oui, il y a certains tableaux, c'est le titre aussi qui fait résonance avec le contenu du tableau, et ça le fait aussi en musique beaucoup.
Et effectivement, l'histoire est tragique, hein, l'histoire de cette vie brève, c'est l'amour de la gitane Salud pour Paco, qui est un riche jeune homme qui lui est promis à une jeune fille de bonne famille, et cela finira dans les larmes.
Ça finit mal.
Exactement, ici. Tiens, cet univers de l'opéra, c'est un univers inspirant pour vous en tant que réalisateur, Jean-Marie Larrieux?
On peut pas dire... moi, j'ai été à l'opéra... 2-3 fois, j'en écoute un peu plus, mais on peut pas dire du tout qu'on est spécialiste. Mais il se trouve que dans Les Derniers Jours du Monde, pourtant, l'histoire de la mise en scène de la musique sur scène, c'est assez passionnant. Alors nous, on y va un peu en néophyte, mais néanmoins en cinéaste, donc c'est toujours assez passionnant. Là, on pensait un peu à Hitchcock, d'ailleurs. C'était assez hitchcockien, cette séquence entre ce qui se passe sur scène, un peu théâtral, et puis le théâtre est aussi dans la salle, et on mélange les deux, donc c'est très cinématographique.
Oui, l'opéra, enfin, dans le film, il est quasiment plus dans la salle que sur scène. D'où ce morceau qui est assez paisible, qui est le début de l'opéra, mais dans la salle, la vraie tragédie se joue en même temps.
Et après le drame, la lumière, Sanctus, extrait du Requiem de Gabriel Fauré, chanté ici par le chœur de l'Orchestre de Paris. L'Orchestre de Paris, à ses côtés, et Pavou Hiergi à la direction. Voilà si longtemps que j'accompagne à l'orgue des services d'enterrement, j'en ai par-dessus la tête. J'ai voulu faire autre chose, ce sont les mots de Gabriel Fauré, après l'écriture de ce Requiem. Un Requiem là où on ne l'attend pas, c'est votre choix musical, Jean-Marie alors... Larrieux.
L'enchaînement est le bon, puisqu'on parlait d'opéra avant. Non, pour nous, longtemps, ça l'est toujours, la question de la musique, de la grande musique, de la musique classique, puisqu'on a beaucoup tourné en montagne, donc dans des décors qui, eux, alors, sont...
Grands.
Grands, majestueux, immenses. Donc la question de la musique classique en montagne s'est toujours posée.
C'est vrai?
Qu'est-ce qu'on met face à la montagne, alors? Longtemps, on a d'abord mis du silence, mais par exemple, là, c'est une musique qu'on a mis dans un moyen-métrage qui s'appelle La Brèche de Roland, pour lequel on avait rencontré Mathieu Amalric, qui est un père de famille qui tient absolument à mener sa famille à La Brèche de Roland, où il aurait été conçu. Donc le lieu est mythique, et là, c'est le moment, quand on découvre enfin la brèche dont il a parlé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on met comme musique? Il y a une sorte d'ironie, là, donc c'est de la grande musique, mais on est ailleurs, nous, ces chants, on a l'impression qu'on est en sorte de paradis, qui est vaguement inquiétant, quand même.
C'est vrai, vous trouvez?
Il se trouve que la brèche de Roland, de l'autre côté, on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est un passage. Donc cette zone-là, on dirait un nuage un peu en suspension, qui est beau, qui est grand, mais enfin, c'est pas très stationnaire, un nuage.
Mais là, parce que la brèche de Roland, c'est un vrai monument en soi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que les gens le visitent d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est un lieu monumental, donc à la fois sublime, et donc il y a un esprit qui s'en dégage quand même toujours, les gens viennent le voir pour ça, il s'en dégage quelque chose de particulier. Et effectivement, il y a toujours du vent, il y a toujours un nuage qui passe à travers, c'est très particulier. Mais on s'est dit, allons-y franchement, ajoutons la voix de ce lieu, ce qu'on n'aime pas en général, mais là, comme c'était monumental, que tout le film raconte le trajet de ce personnage qui veut se rapprocher de cette légende, et bien là, il arrive à sa légende, à son lieu de légende. Donc allons-y franchement, mettons oui la voix de cet endroit.
Quand tu dis ça, on aborde même le religieux, mais via forêt et ces gens, alors ce qu'on appelle, je sais pas, l'école française qu'on aime beaucoup là, Forêt, Poulenc, Debussy, Ravel. Ça c'est les quatre, je sais pas, il y a un esprit qu'on aime beaucoup. Donc même dans ces musiques monumentales, je trouve qu'il y a un esprit français. C'est à la fois sérieux et pas tout à fait, ou je sais pas, il y a une sorte de légèreté.
C'est pas allemand, tu veux dire?
On va dire que c'est pas allemand, c'est français. Eh ben, c'est beau, il y a des très belles, mais il y a une légèreté quand même dans le grave.
Mais d'ailleurs, dans le film, nous, on a prolongé la musique, alors que donc le couple arrive à la brèche de Roland, et ça vire à la scène de ménage, mais nous, on garde la musique sur leur scène de ménage.
Symphonie qui évoque le Big Bang et puis l'apparition de la lumière des étoiles. On y revient décidément à cette lumière qui plane bien aussi dans vos films, hein, les frères Larrieux. Ici, Guillaume Connaisson, un extrait d'Aleph, première partie de Cosmic Trilogy, interprété par le Royal Scottish National Orchestra. Stéphane Deneuve à la direction. Racontez-nous.
C'est vraiment une découverte. C'est moi qui l'avais découvert parce que ma fille, quand elle était jeune fille, là elle a un peu arrêté, elle faisait de la harpe et il y avait des petits concerts à la fin de l'année. Et un jour elle joue un morceau, mais qu'est-ce que c'est ce morceau? J'ai trouvé ça incroyablement bien. Et donc c'était Guillaume Connaisson. Et depuis on écoute tout ce qu'on peut écouter de Guillaume Connaisson.
Compositeur vivant.
Compositeur français vivant, et on trouve ça magnifique, varié, à la fois contemporain, très lyrique, et puis il doit aimer le cinéma.
C'est ça que j'allais dire, c'est une musique extrêmement visuelle.
Ça s'entend, c'est...
Ouais, puis ça traverse les gens.
Voilà.
Juste les deux minutes qu'on vient d'entendre, justement, on passe de Broadway au film d'aventure, au western, au petit film intime, voilà. En 4 secondes.
Il y a un peu de John Williams aussi, je trouve.
Oui, oui, et ça, on aime beaucoup, y compris nous, pour nos propres films.
C'est ça que j'avais demandé.
Je pense qu'un jour, il va falloir qu'on écrive le film pour ce qui s'adapte à sa musique.
Ah, ben ça me va très bien, ça me va très bien.
Ouais, c'est... Ouais, je trouve ça formidable.
France Musique, Saskia Deville.
Quels sont vos goûts en matière de musique de film original, Arnaud Larrieux ?
Ouh, je n'en ai plus de goût.
C'est vrai ?
Non, avec l'âge, moi je marche maintenant au hasard.
Là, vous parlez de musique d'autres films ?
De bandes originales à la base, mais revenons à la musique en général.
Là, on revient un peu à ce qu'on a fait sur Tralala, c'est-à-dire que précisément d'avoir fait appel à différents compositeurs, compositrices...
Alors, on va peut-être juste repréciser pour nos auditeurs que vous êtes quand même à l'origine de cette magnifique comédie musicale Tralala, qui sera à découvrir sur les écrans et bien à partir du 6 octobre. Ce sera en compagnie notamment de Mathieu Amalric, qu'on avait reçu dans cette émission il y a quelques jours. Comédie musicale, justement, alors racontez-nous, Jean-Marie.
Et dans la musique, par principe, on n'a absolument pas de demander à un compositeur, ce qu'on appelle, qui descendrait du ciel et qui pose sa musique sur le film. Donc je pense que c'est pour ça que répondre « Ah, on aime beaucoup ce genre... » Franchement, pour vous le dire un peu brutalement, on n'aime pas les musiques de film. On n'aime pas du tout cette idée que Dieu descend et met de la musique dans un film. Donc là, c'est la musique, elle part des personnages, des acteurs, des actrices qui ont travaillé avec des compositeurs divers, comme il y avait une diversité de personnages. Et je pense que ça correspond plus à notre idée des choses, donc une variété, et puis qui prend sens et émotion par rapport au récit. Donc chaque fois, on pourrait changer de on a travaillé avec les Caravaggio pour L'amour est un crime parfait, on a travaillé avec Nicolas Repac pour 21 nuits avec Patty. Les derniers jours du monde ont traversé, effectivement, comme on s'est dit, c'est la fin du monde. On traversait des musiques classiques, des différents genres de musique, mais ça existait comme des constellations. Et j'ai l'impression que voilà, la musique existe et nos films plutôt viennent se balader dans l'univers musical. On est très athée en matière musicale.
Et puis peut-être
je sais pas
un
comment
jour,
dire, pas de dieu compositeur.
Et puis peut-être un jour Guillaume Connaisson au cœur d'un film.
C'est le seul qui nous met un doute.
Louis ici au piano pour ce presto, la dernière des bagatelles opus 33 de Beethoven que vous avez choisi pour nous, Jean-Marie et Arnaud Larrieux, ou peut-être l'un d'entre vous, je ne sais pas au final.
C'est tous les deux.
Oui.
C'était un regret. On avait fait un film qui se passait en montagne. On avait imaginé qu'il y aurait des musiques et mal conseillé par amis spécialistes de l'époque nous disaient non, il faut pas de musique avec la montagne, il faut pas de musique dans les films. Et une des premières
musiques,
c'était le personnage partait vers le fond du cirque de Gavarnie, donc sous la brèche de Roland, et c'était des bagatelles. On voulait mettre, il y aurait eu que des bagatelles dans le film.
Mais c'est-à-dire, c'était une commande du parc national des Pyrénées, donc un documentaire de commande. Alors on s'est dit, ben on va faire ça, mais il y aura aucune des conventions du documentaire de montagne, donc pas de musique et pas de commentaire. Sauf à ce moment-là, quand même, quand le jeune homme va rejoindre sa compagne de l'autre côté de la frontière, il y avait un élan. On s'est dit quand même, et puis la caméra partait sur le cirque de Gavarnie et sa gigantesque cascade. Encore une fois, c'était pareil, le rapport au monumental. Et en fait, on aimait beaucoup, donc on l'a souvent essayé. Nous, on l'a vu en montage souvent. On trouve ça très beau, mais on n'a pas résisté. À nos...
Et puis les bagatelles, alors là c'est l'inverse, c'était quelque chose de plus intime, c'était plus par le personnage et l'élan de joie intime par rapport à la grandeur de l'espace.
La beauté de l'espace.
Et on aimait beaucoup, alors là il y avait comme un petit contraste, oui, la beauté, mais les bagatelles comme quelque chose de léger, sans trop d'importance, mais qui a rapport avec la joie par rapport à ces espaces... Puis on avait un ami, il est décédé, Michel Benayem, qui était pianiste et qui les jouait très très bien, qui les a souvent joués, interprétés.
En tout cas, ce mauvais conseil de ne pas mettre de musique dans un film, vous êtes vengé depuis, je pense notamment film qui sort donc le 6 octobre, Tralala, cette comédie musicale. Comment justement, je ne sais pas si on peut répondre à cette question très vite, comment filmer la musique et la danse?
En plan séquence déjà, c'est-à-dire on s'est dit, il s'agit pas du tout de clipper les morceaux, c'est tout au contraire, c'est-à-dire justement encore une fois, la musique et la chorégraphie devaient venir du personnage et non pas du film. Donc c'était pas au montage à rythmer la séquence, c'était à l'acteur ou au chanteur, dans le cas de Bertrand Belin, c'est lui. Et les chorégraphies, c'est Mathilde Monnier qui s'en est occupée. Elle a utilisé cette méthode-là aussi, c'est-à-dire de partir d'eux. Elle, au lieu de leur dire « tu vas essayer de danser comme ça », chaque fois, elle leur a dit « voilà la musique, toi, qu'est-ce qui te vient ?» Et c'est à partir de ça qu'elle a fait une écriture un peu de ça, c'est-à-dire « tiens, ce geste est intéressant, développe-le ». Mais encore une fois, pour que tout vienne absolument du personnage et non pas du film.
Laisser la danse et la musique vivre à travers les interprètes.
Oui,
c'est ça qu'on pourrait dire comme ça.
Bah, parce qu'on voit pas très bien d'où elle pourrait venir d'ailleurs, on y revient. Elle vient des interprètes et des gens qui l'incarnent.
Tralala, à découvrir donc au cinéma le 6 octobre, à partir du 6 octobre prochain, film en partenariat avec FIP. Et film avec Mathieu Amalric, Josiane Balasco, Mélanie Thierry, Maïwenn, Bertrand Belin notamment. Et vous en reparlerez sur France Musique très prochainement. Arnaud et Jean-Marie Larieux, puisque vous serez les invités de Laurent Vallière dans 42e rue, ce sera le 10 octobre prochain à 13h sur France Musique. Merci à tous les deux d'être venus partager votre playlist de musique classique. Et puis merci à mon équipe, Éric Lancien, Pauline Boisaubert et Julie Garraud. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Très bonne journée à l'écoute de France Musique.
Au bout du bout, dans l'incendie, j'étais pantois, cuit, électron libre, vagabond dans l'infini, mon petit. Alors j'étais un drôle d'oiseau de feu. Fille en bleu. Au diable le vertige des cimes, j'ai grimpé dans les tours comme un amour, comme au voûté. Arriva ce curieux baptême, surtout ne soyez pas vous-même. Soyez sage, soyez le passage.
À réécouter sur francemusique.fr.